20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Bonjour, bonjour. Comment être heureux aujourd'hui? On espère avoir la réponse pour ce troisième et dernier épisode de notre série. Et parmi les façons de s'échapper, il y a la méditation et le yoga. Et si c'était ça le secret? Caricatural, bien sûr, mais n'y a-t-il pas là une façon de résister et d'élaborer un autre rapport au monde? Ou tout ça n'est-il qu'une nouvelle recette pour nous rendre plus efficaces, plus cool et surtout pas en colère contre tout ce qui ne va pas? Salut tout le monde!
Salut Antoine!
Première question, parce que je crois que je suis entouré par des personnes qui font du yoga, je ne peux pas résister à vous demander quelle est votre position de yoga préférée, Sarah, évidemment.
Ah, c'est moi qui commence. Moi, c'est la posture de l'aigle, eagle arm, et puis avec les jambes aussi. Donc, c'est à la fois de l'équilibre, et puis tu détends tout quand même dans le dos en croisant tes bras. Enfin, taper pour l'avoir, mais je ne sais pas, ouais. Je me sens très bien dans cette position.
Et surtout, n'hésitez pas à demander à ce qu'on fasse des vidéos des positions. c'est surtout ça le but. Et toi, Dalibor?
Alors, moi, ma position est claire, je suis pour le droit de tous au yoga.
Ah
voilà, c'est très bien.
L'heure de détourner les questions.
Zineb.
Moi, ma posture préférée, j'aime bien dire que c'est Shavasana, la posture du cadavre.
Ah oui.
Où tu acceptes la mort, c'est ça.
Bon, posture partagée peut-être. Et toi, Sonia?
J'allais dire la même chose parce que c'est la dernière posture au yoga où on s'allonge sur le sol, on se dit « Ah, c'est fini, j'en ai plus de faire des efforts. » Mais j'aime bien aussi la posture de l'enfant où t'es en boule sur le sol et c'est très reposant.
Et toi, Marlène?
Et ben moi, c'est Uttanasana, la posture de la pince où en fait, c'est juste très simple. Vous êtes sur vos deux jambes et vous vous abaissez la tête en bas en laissant pendre vos bras et ça étire tout votre dos, toutes vos jambes et puis vous déposez un peu tout ce qui ne va pas sur le sol.
Alors,
ça, c'est quand on peut. Hein.
Autour de moi, dans une ambiance de thé fumant, de lumière tamisée, de voix douce, évidemment, nous allons parler des ambivalences du yoga et de la méditation. J'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu à ça quand même, Zineb. C'est-à-dire que le yoga et la méditation, c'est d'un côté une arme de résistance à la marchandisation de notre attention. C'est une façon de regagner un petit peu de capacité à se concentrer.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Antoine. Et je voulais juste revenir un peu.
Retrouvez-moi sur mon Instagram.
Exactement. Oui, parce que, bien sûr, des cours de méditation.
Redisons-le quand même, Zineb est une spécialiste du sujet. Nous avons une enseignante du yoga à notre table.
Il n'y a pas de spécialiste du yoga. Vous avez une bonne prof de yoga. En tout cas, ce qui me paraît intéressant quand même de rappeler, c'est dans quel contexte sont nées la méditation et le yoga. C'est des pratiques qui ont été développées initialement dans des milieux d'ascètes renonçants. Donc des personnes qui ont renoncé à la vie mondaine, un peu comme des moines chez nous, et qui viennent s'adresser. Donner complètement la pratique spirituelle. Donc, c'est pas une pratique initialement qui était destinée à tout un chacun. Et donc, aujourd'hui, on va avoir des nouvelles façons de méditer et de faire du yoga qui se sont développées aujourd'hui. Et
enfin, effectivement. Tu veux dire qu'au départ, c'était pas pour faire du yoga en leggings sexy
Désolée de vous décevoir.
Sur des sites sublimes et instagrammables.
Non, ils étaient plutôt en petits slips.
Souvent, tout
c'est
nu,
vrai. Ouais.
Le
tout
sexe
nu.
Entortillé sur des petits bouts de bois, mais ça, c'est une autre histoire. Oh,
ils déroulaient leurs intestins aussi à volonté.
C'est totalement vrai. Mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, le yoga et la méditation, c'est devenu quelque chose d'assez ambivalent. Et c'est pour ça que je voulais rappeler ça en introduction. Mmh. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant. C'est qu'aujourd'hui, notre attention, c'est devenu une marchandise. C'est quelque chose qu'on essaie de capter à travers la pub, n'est-ce pas, Sarah? À travers aussi des armées de neuroscientifiques qui travaillent pour les réseaux sociaux, qui essaient de voir comment ils peuvent capitaliser sur notre attention. Et la méditation, c'est vraiment une façon de venir, finalement, ramener l'attention vers autre chose que le monde extérieur.
Moi, ce que je trouvais intéressant quand j'ai commencé le yoga, c'est de voir ma difficulté justement à ne rien faire et justement sur les positions finales, la position du cadavre final où tu t'allonges et tu ne dois pas bouger. Et ben en fait, on est devenu quasiment incapable de ça et c'est un vrai travail sur soi que d'apprendre à rester 5 minutes allongé sans bouger. Et en fait, que ça te fasse du bien et de ne pas être complètement stressé, angoissé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de penser à quelque chose. Il ne se passe plus rien. Et ça montre à quel point on est sursollicité aujourd'hui. Et c'est très difficile de sortir de ça.
Ouais, et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, cette pratique du yoga ou de la méditation hein, permettent en fait, de, finalement, de créer un nouveau territoire qui n'est pas un territoire hors du monde qu'on va arpenter, qu'on va arpenter, dans lequel on va marcher, mais un territoire en fait intérieur, hein, une géographie un peu intérieure, réussir à nommer ses sensations, à les localiser, nommer ses émotions et juste en fait les observer comme si c'était finalement un paysage qu'on regarde. Regardait, qui n'est pas face à nous, mais à l'intérieur de nous.
Ah, c'est beau ce que tu dis, Marlène. Alors moi, j'ai des souvenirs un peu différents parce que j'ai essayé de faire du yoga. Je n'ai pas décrit ma position préférée parce que je suis incapable d'en avoir une. Mais c'était terrible. Ça veut dire que j'étais la caricature du type stressé qui vient faire du yoga. La prof était excellente. Ça, c'est bien sûr pas en cause. Mais j'arrivais, j'étais à la bourre parce que c'était trop tôt par rapport à mon boulot.
Ça commence bien.
Voilà, c'était un horaire normal, mais anormal pour le boulot que j'avais à l'époque. Donc j'étais stressé, sourcils plissés, cœur palpitant. J'arrive et évidemment, mon portable a sonné une fois pendant un cours, donc vraiment une catastrophe ambulante.
Zéro pointé pour Antoine.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé au départ dans le yoga et dans la méditation notamment, c'est, alors notamment dans la méditation vipassana que j'ai pratiquée et que Emmanuel Carrère décrit dans le fameux livre Yoga, c'est le lien qu'ils font entre les sensations et les sentiments. Enfin, on nous demande en gros de scanner notre corps et d'analyser chacune des sensations de notre corps et de les relier à des sentiments. Et souvent, en fait, on ne ressent que le sentiment, on a l'impression d'être en colère, sans se rendre compte que notre dos va être tendu, notre corps plissé, notre front froissé. Et là, en fait, en analysant tout ce qui se passe dans le corps, on va arriver à détricoter un peu le sentiment qui nous traverse.
Ouais, bah, je trouve que c'est en fait une reconquête du corps et du temps, parce qu'en fait, c'est du temps, moi je trouve pas qu'on puisse dire que c'est du temps consacré à rien, mais concrètement c'est du temps improductif en tout cas du coup en ça je trouve que c'est une belle arme de résistance en lien avec ce qu'on disait dans l'épisode précédent sur le temps.
Sachant que tu peux pratiquer du yoga ou de la méditation sans avoir un objectif parce que tu peux avoir ça de te muscler, de devenir plus souple, etc. Ça peut vraiment être juste du temps pour soi et pour se reconnecter.
Ah bon, tu veux dire qu'on n'est pas obligé d'être le meilleur, le number one, le number one du yoga? Ça me paraît bizarre.
Alors, est-ce que vous pouvez avouer quand même si vous arrivez à ne pas regarder un peu votre voisin en vous disant putain, il arrive beaucoup mieux que moi, ça m'énerve.
Bah maintenant, comme on est sur Zoom, globalement, ça va.
C'est ce que raconte Carrère dans son livre.
Oui, c'est vrai.
Moi, je suis très jalouse de ceux qui arrivent super bien à faire la pince, par exemple.
J'ai pas dit que j'arrivais bien, j'ai dit que j'aimais. C'est différent.
Non, mais et même, c'est faire du yoga, c'est apprendre de se libérer des frustrations quand tu n'arrives pas à faire une position et au lieu d'être là à enrager, dire ah, j'y arrive pas, ça m'énerve, dire ce n'est pas grave, je n'y arrive pas aujourd'hui. Mais
c'est exactement ce que je pense chemin, quand j'y arrive pas.
Le chemin est important et peut-être j'y arriverai un jour et si j'y arrive jamais, ça n'a pas d'importance.
Non, Sarah, tu nous inspires. Il y a des gens aussi qui ont essayé de se libérer d'un certain nombre de choses. Ce sont les stoïciens, parce que parfois on raconte, sans doute avec beaucoup de raccourcis, que le yoga serait peut-être une forme de stoïcisme moderne. Qu'est-ce qu'on retrouverait un peu dans cette pensée des stoïciens ?
Alors effectivement, on compare souvent les sagesses stoïciennes et les sagesses orientales parce qu'il y a des deux côtés une forme de panthéisme, le grand souffle.
Alors c'est quoi le panthéisme ?
L'idée que en fait l'univers est une âme unique, est une forme de Dieu incarné, un peu comme chez Spinoza également. Donc il y aura quelque chose de commun dans cette inspiration. Après, c'est le travail sur soi, les exercices spirituels qu'il y a dans le stoïcisme et qu'il y a évidemment dans toutes les traditions yogiques. Après, c'est très différent parce que si on lit Épictète ou si on lit les Yoga Sutras de Patanjali ou les Sutras bouddhistes, c'est très différent. Il y a un travail sur le corps qui n'est pas du tout fait dans les sagesses stoïciennes, où c'est uniquement un travail intellectuel sur la logique, sur les représentations, sur la métaphysique, sur la physique. Alors que, ça c'est un gros problème de l'Occident, on perd totalement de vue la sagesse du corps. Et pour revenir à ce que tu disais, l'attention aux sensations, c'est avant tout, et ça je dévie un peu vers le bouddhisme, c'est avant tout une invitation à l'attention sur l'impermanence. L'impermanence, c'est supporter cette idée de l'impermanence et notamment de la non-existence du soi. Donc la méditation, c'est pas juste se calmer le corps et se réunifier l'âme et le corps, ce qui est déjà pas mal, mais c'est une façon d'entrer dans cette vérité très déstabilisante et très inconfortable du non-moi et de la, de la non-substance.
Et je me permets de rebondir un peu sur ce que tu dis, Dalibor, c'est que tu soulignais ces ambiguïtés justement de la méditation et du yoga, mais finalement dans les deux disciplines de façon un peu différente, mais on ne va pas rentrer dans les différences entre l'hindouisme et le bouddhisme aujourd'hui, mais il y a vraiment cette idée à la fois de se reconnecter à l'essence du vivant, et il y a aussi cette idée finalement de transcender le moi personnel qui est finalement ce sur quoi on se concentre aujourd'hui quand on pense pratiquer le yoga ou la méditation.
Oui, moi j'ai été très frappée aussi par cette idée de quand on méditait, donc dans Vipassana, on nous disait toujours en gros on doit se concentrer sur les plaisirs et les douleurs qui traversent notre corps, mais surtout ne pas s'y attacher, se dire en permanence ça va passer. Ça va passer.
Ça va passer, oui, pardon, et ce n'est pas moi, en fait. Oui, ce sentiment, cette émotion que je ressens n'est pas moi. Et juste une précision, Vipassana, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est une retraite pendant 10 jours, enfin, en tout cas, une retraite en silence, quoi. Donc,
fait,
qui peut avoir
jours,
des durées.
Non, voilà. C'est 10 jours obligatoires. Enfin, vous pouvez partir avant si vous craquez, mais normalement, c'est 10 jours.
Voilà, et j'invite, parce que c'est à titre personnel, Gérald Darmanin, à faire beaucoup de Vipassana, autant qu'il pourra, parce que ça nous fera beaucoup de bien.
Avec sa copine Marine.
Exactement,
il peut partir en main, ce sera romantique.
En Vipassana. Le yoga et la méditation sont aussi, disons, en danger d'une récupération productiviste. Alors, c'est presque un classique, hein, tellement il y a quelque chose qui se passe, qui conteste, qui fait qu'on peut se comporter autrement par rapport aux flux marchands, aux flux qui sollicitent notre attention. Et puis, ces choses-là vont être récupérées. Peut-être avec ce qu'on pourrait presque appeler un marketing du yoga.
Qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait ? C'est surtout ça. Mais oui, en fait, c'est vraiment, encore une fois, vu que le yoga, finalement, c'est assez paradoxal, c'est que la méditation vont travailler, on l'a dit, sur finalement un peu l'abolition de l'ego, en tout cas. Et ça intéresse beaucoup ceux pour qui le moi et l'ego est très important. Et donc, ça va être beaucoup utilisé par tout ce qu'on appelle le développement personnel. L'idée que le yoga, la méditation peuvent nous aider à accepter les choses qui pourraient être parfois jugées inacceptables, du coup à ne pas se battre contre des émotions trop dures, à accepter la souffrance au travail, à mieux accueillir le changement et à être de plus en plus adaptable, comme on l'a déjà évoqué.
Effectivement, c'est finalement, on rejoint un peu le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, mais finalement, si on est capable de travailler sur soi et de s'accrocher à ces notions qui ont été un peu transformées, justement, d'impermanence, d'acceptation, si on les retourne un tout petit peu ou si on les twiste un tout petit peu, on arrive facilement à se dire qu'en fait, tout est acceptable et on ne se bat absolument pour rien.
Tu as parlé, Zineb, d'impermanence. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire ? Ça veut dire que les choses ne durent pas ?
Ça veut dire que dans la vie, tout est éphémère, donc on le sait tous. C'est une loi naturelle.
On ne l'avait pas précisé.
Non, et peut-être dire sur ce marketing, etc., du yoga, c'est aussi que ça va nous renvoyer, comme d'habitude, et notamment par les réseaux sociaux, à des choses qui sont inatteignables. Par exemple, la professeure de yoga qui se prendra dans des poses extraordinaires, dans des endroits extraordinaires, et qui mangera toujours des choses parfaitement saines de saison. En fait, et ce qui te fait culpabiliser, parce que moi, j'ai pas eu le temps de me faire à manger. Moi, en plus, il flotte derrière, etc.
Et que t'arrives pas à toucher tes pieds.
Et j'arrive pas à toucher mes pieds. Et je rajouterais aussi quelque chose, c'est que, enfin, moi, ça va être ma vision personnelle du yoga et de la méditation, c'est que pour moi, c'est des outils, entre guillemets, alors là, je vais peut-être faire rebondir, mais c'est des outils qui peuvent permettre à devenir plus heureux, à se reposer, à voilà, enfin, tu peux trouver quelque chose là-dedans, mais je trouve qu'on est aussi dans une société où il peut y avoir une injonction cette fois-ci, genre, si t'aimes pas le yoga, quoi, tu dors mal, fais de la méditation, ça va marcher, c'est sûr. En fait, peut-être que oui, peut-être que non, et c'est pas grave, mais en tout cas, c'est des outils extraordinaires qui sont en notre possession et qu'on peut tester, et c'est pas grave s'ils nous conviennent pas d'une certaine manière.
C'est aussi le problème.
Vas-y, Dalibor, vas-y.
C'est aussi le problème d'une spiritualité par appartement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut prendre à la carte ? Est-ce qu'on peut ne pas prendre le menu ? Est-ce qu'on peut prendre juste l'entrée, le dessert, et puis sans gluten, s'il vous plaît, moins de sel ? Et puis, vous avez une mauvaise tête, je voudrais que ce soit la service qui m'apporte. Donc là, c'est un peu la même chose quand on fait notre marché dans les sagesses orientales. On prend uniquement ce qui va nous flatter, ce qui va éventuellement accroître la productivité dans l'entreprise, ce qui va ne pas mettre en cause nos modes de vie, alors que globalement, ça fait partie d'un mode de vie, par exemple, l'idée, le rapport au maître. Il y a toujours un rapport au maître dans les sagesses orientales, ce qui est très, très difficile dans nos traditions individualistes, d'avoir un même rapport au maître et à une lignée, à une tradition, ou un rapport au groupe aussi, l'idée que les choses se font en groupe. La méditation ou le yoga, c'est pas quelque chose, même si on appelle ça un développement personnel, ça devrait être plutôt un développement collectif.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait un peu interrogée et qui m'interroge toujours quand je vais à des cours de yoga ou de méditation, c'est que j'ai toujours l'impression quand même qu'il y a une forme de repli sur soi. On se met à l'écart comme si on se mettait à l'écart des difficultés du monde pour ne plus se confronter à ces à ces difficultés, justement. Et c'est quand même quelque chose qui peut nous déranger, comme si on refusait finalement la politique pour dire je vais me construire moi personnellement.
Ça peut être très narcissique.
Ouais. Et justement, je voulais rebondir sur ce côté narcissique. Hein. Sarah l'a dit que ça pouvait très bien tomber dans un culte de la performance. Et puis notamment le yoga, je trouve aujourd'hui par son marketing, reprend aussi toute la question du culte du corps, qui est une question extrêmement dérangeante dans nos sociétés, et notamment du corps féminin, du corps fin, grand, élancé, du corps souple, comme tu le disais aussi, qui revient encore à penser que l'adaptation que l'on doit subir doit aussi s'inscrire jusque dans nos muscles. Mais en tout cas, il y a vraiment une mise en scène du yoga qui est très particulière sur les réseaux sociaux et qui contribue en fait à populariser et à diffuser de plus en plus des injonctions qui sont déjà présentes.
Alors on peut se dire que c'est le méchant Occident qui récupère les traditions orientales, mais ouais. C'est même pire que ça. L'Inde, on sait qu'actuellement, il y a un outil de soft power. Le yoga mondialisé, javelisé, aseptisé, est utilisé par le gouvernement nationaliste comme un outil de soft power. Le ministre, le premier ministre indien fait son yoga sous l'œil des caméras. Ouais. C'est devenu de la propagande. Pour dire, nous avons trouvé le secret de la réussite, du dynamisme de la croissance, nous les Indiens.
Et on voit bien que finalement, le yoga à travers le temps, ce yoga à la carte, nous fait passer d'une discipline radicale de contemplation et de libération du soi à une discipline qui, a d'autres objectifs. Et on va entendre une professeure de yoga pour laquelle nous avons toutes et tous pas mal d'affection. Accrochez-vous et surtout, sortez vos tapis.
On pose les mains sur les genoux, paume vers le ciel et on prend un instant pour se reconnecter à son intériorité et à la terre-mère. Amplitude divine. Sangalpa, vous fermez les yeux et vous posez une intention entre vos deux sourcils que vous ne quitterez pas pendant toute la durée de la pratique. On se rejoigne sur le cœur en namasté et on inspire par la narine droite Ida pour l'énergie solaire. L'assiette scapulaire se relâche, les index pressent dans le sol, les ischios montent vers le ciel et on se retrouve en Adho Mukha Savasana, Downward Facing Dog. Pour celles qui sont aujourd'hui dans ce type d'énergie, on se retrouve en Vidrapadasana 3 pour 5 respirations. Je déconseille cette position pour celles qui sont en lune rouge parce qu'elles pourraient contrarier votre cycle et je vous invite à rester en Ekapratha Kapotasana. Maintenant, on rétroverse le bassin, les mains se posent sur la terre, index face au mur, bras tournés vers le coin externe de la pièce. Le nombril se dépose le long de la colonne et les hanches s'éloignent le plus possible des côtes. Et Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos droit, le versant opposé de l'épaule se dépose sur la cheville interne pour arriver en Parvita Trikonasana. Je vous rappelle que le yoga n'est pas une compétition et qu'il faut rester humble dans sa pratique. Vous pouvez désormais vous remercier pour le temps que vous avez consacré à votre corps et nous allons maintenant vibrer sur le son de Om pour être en harmonie avec la conscience universelle.
Om. Alors, Zineb, dis-nous si cette merveilleuse Lison Daniel dit n'importe quoi.
Absolument pas, c'est fascinant. Elle connaît tous les noms des postures, elle donne les noms anatomiques précis. Cette femme est incroyable.
C'est Lison Daniel, donc l'humoriste, et on vous invite à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu,
les caractères
sur Instagram.
Instagram, c'est génial. Qui nous a apporté pas mal de rire pendant le confinement, les confinements divers et variés. Ce que dit pas cette professeure, finalement, c'est que c'est la place des sensations dont on a commencé un petit peu à parler, que au fond, pourrait se dessiner dans le yoga quelque chose d'intéressant qui montrerait que l'écologie n'est plus seulement une idée, quelque chose d'abstrait, un projet politique, et que c'est aussi une série de sensations.
Alors oui, Antoine, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé le yoga et la méditation, c'est que j'avais des convictions écologistes avant, mais c'était des choses qui étaient finalement très théoriques. Mmh. Et par la pratique méditative, par la pratique contemplative, il y a vraiment cette sensation, et ça va paraître un peu perché, mais si vous avez déjà fait de la méditation, vous l'avez peut-être déjà ressenti, mais cette sensation de faire vraiment partie d'un tout qui est interconnecté et qui est finalement la thèse qui est développée par l'écologie de façon intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème où tout est interdépendant. Et donc, du coup, quand on commence à méditer et à pratiquer le yoga, je trouve qu'il y a cette conscience-là qui se développe, mais d'un point de vue qui est incarné et qui, selon moi, du coup, peut nous pousser aussi plus facilement à l'action que si ça reste quelque chose de théorique. Si nos affects sont engagés, on a plus tendance aussi à se mettre en route.
Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les stoïciens, d'ailleurs. L'idée, en fait, que le bonheur, c'est d'être vertueux, et cette vertu, en fait, c'est d'être en accord avec la nature, dans un sens très 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 large, hein, mais ça peut être la nature de soi, la nature de la vertu, mais aussi la nature de l'univers.
C'est intéressant de savoir d'ailleurs que ces philosophies grecques et ces philosophies indiennes comme le bouddhisme, le jainisme, sont nées quasiment à la même époque, dans des endroits très différents. Voilà.
Ce qu'on appelle la période charnière.
Exactement, la période axiale.
De l'éveil spirituel de l'humanité.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est cette Tout période simplement. Charnière
C'est une période où quasiment simultanément, à quelques siècles près, ne mettons pas, on a le bouddhisme, le judaïsme, le taoïsme, tout ça très très vite et c'est comme si les problèmes, non pas les solutions, mais les problèmes fondamentaux de l'humanité étaient formulés de façon définitive, qui n'ont pas bougé, le problème de l'âme et du corps, du bien et du mal, etc.
Est-ce qu'ils arrivent à trouver le bonheur ?
Non, justement pas.
Ils y réfléchissent toujours.
Mais la question du bonheur, la question du mal...
Est-ce que c'est une quête, surtout ?
Et c'est une quête, tout ça, naît dans un intervalle, sur plusieurs continents qui ne sont absolument pas connectés, dans un intervalle très court au regard de l'histoire, tout ça naît comme ça.
Oui, justement, pour revenir à la question que posait Marlène, c'est est-ce que c'est une quête ? Est-ce que, justement, leur quête, c'est le bonheur, à ce moment-là ?
Leur quête, c'est la libération de la souffrance, en tout cas pour l'Inde, et c'est tout à fait autre chose. Et
oui, c'est pas forcément le bonheur de ce que j'ai compris, oui. Enfin, pas celui qu'on connaît, nous.
Exactement, mais pour revenir un peu à ta question, Antoine, ce que je trouve très intéressant, et je sais pas si je vous invite à regarder ce documentaire, c'est un petit documentaire de 19 minutes qui s'appelle The Overview Effect. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est des astronautes, en fait, qui sont partis, dans l'espace, et qui ont racontent ce qu'ils ont ressenti la première fois qu'ils ont vu la Terre depuis l'espace, et ils parlent vraiment d'une sensation d'unité et de connexion avec le tout. Et en revenant, ils se disent, mais c'est quoi ce truc incroyable qui nous est arrivé là-haut ? Et ils commencent à chercher un peu une explication dans des ouvrages scientifiques, dans des ouvrages religieux, et ils trouvent en fait la description de cette sensation, de cet état, dans des textes indiens qui parlent de samadhi, qui est cet état d'absorption et de sensation de connexion au tout. Donc je trouve ça assez fascinant de voir qu'il faut aller dans l'espace pour revenir un peu découvrir ce que des Indiens ont trouvé assis dans une petite hutte en regardant vers l'intérieur.
Il y a un débat très connu entre Romain Rolland, l'écrivain, et Sigmund Freud, le psychanalyste, sur le sentiment océanique.
Oui, c'est
Romain Rolland lui parle de sentiment océanique et le juif, plutôt mal dans sa peau en tant que juif, Sigmund Freud, lui dit qu'il ne comprend pas ce que c'est que le sentiment océanique. Il est vraiment sur une idée du moi séparé du monde. Il ne comprend pas ce que lui dit Romain Rolland. Et on est vraiment ça, Romain Rolland, très sensible, par contre, aux sagesses orientales.
Et c'est un autre rapport au monde aussi qui se dessine, on a commencé à le dire, un rapport au monde qui ne se fait pas dans la prédation et la consommation. Il y a un moment donné, quand on est dans ces postures de yoga, moi, mon moment préféré, c'est celui où on roupille sur le tapis.
Bah, c'est Shavasana.
Ah, ben voilà, avec vos mots savants.
Utilisez le mot précis.
Il suffit, voilà.
La posture du cadavre, qui est selon les yogis la posture la plus difficile.
Sachez-le. Peut-être un bon yoga.
Donc tu vois, finalement, tu nous dépasses tous.
C'est ça. Il ne suffit pas d'être allongé. Il faut aussi qu'aucune pensée ne te traverse l'esprit.
Oui, alors ça, bon, c'est pas
garanti. Ou les observer seulement, c'est déjà
mal. Tu parles, Sonia, de pensées qui traversent l'esprit. C'est un petit peu le sentiment, en fait, qu'il faut réussir à combiner, d'un côté, la paix intérieure, et de l'autre, la paix sociale, que les deux marchent vraiment ensemble.
Bah, c'est l'idée, pour rebondir, que le yoga, finalement, tu lui en parlais tout à l'heure, Sonia, hein, moi aussi j'ai eu vraiment ce sentiment au début, quand j'ai ressenti beaucoup de bien-être en pratiquant, de me dire ouais, mais finalement c'est un bien-être qui me concerne que moi, qui est très individualiste, et de se dire que le yoga et la méditation étaient des pratiques très individualistes. Finalement, on peut aussi penser qu'en se repliant sur soi, enfin en se recentrant sur soi plutôt, et en se connectant aux autres, on pouvait aspirer, dans ce cas-là, à plus d'égalité, plus de justice via ce genre de pratique.
Alors, historiquement, dans l'Inde, effectivement, comme disait Zineb, le yoga était une pratique d'un groupe d'ascètes qui se retirait du monde. C'est les grands types de vie qu'il y a dans l'hindouisme. Le bouddhisme a fait un pas vers quand même plus d'ouverture en disant que ça n'était pas le privilège des ascètes, que n'importe quel laïc pouvait pratiquer et atteindre, même parfois dépasser. Il y a un personnage très connu dans le bouddhisme qui s'appelle Vimalakirti, qui est le laïc qui fréquente les putes, les fils de pub, les millionnaires, etc. Et qui est encore plus éveillé que le Bouddha lui-même.
Nous n'avons rien contre les prostituées dans ce podcast. on le rappelle.
Précisons.
Question que je voulais vous poser, c'est au fond le rapport à la colère aussi, parce que c'est une émotion très puissante qui peut nous traverser, et j'ai envie de dire pas mal légitime quand on voit où on en est aujourd'hui du combat pour la justice sociale et climatique. Que fait-on de la colère dans cette affaire, Zineb ?
Alors justement, ça me permet de revenir sur un point, c'est que le yoga et la méditation ne nous invitent pas à ravaler notre colère. Et c'est un peu la version du yoga récupérée, ou de la méditation récupérée, ou par le marché, par le capitalisme, on veut faire de nous des bons petits soldats bien adaptables au marché. Mais le yoga et la méditation, l'idée, c'est vraiment de venir observer ce qui se passe en nous et venir accueillir tout ce qui se passe en nous, y compris les choses les moins nobles ou les moins agréables, comme la colère. Et la colère est une émotion qui nous fait bouger, comme le mot émotion nous le dit. Et effectivement, c'est pas parce que vous faites du yoga ou de la méditation que vous devez arrêter de vous énerver sur le manque d'avancée qu'il peut y avoir au niveau social ou écologique.
En gros, ça veut dire que tu peux faire ton yoga le matin en te levant et finir en manif l'après-midi en luttant pour...
C'est très complémentaire.
En luttant pour libérer pas seulement ta souffrance, mais aussi celle des autres.
Ça veut dire si Gandhi n'avait pas développé des outils de calme et de non-violence en lui profondément, il n'aurait pas été le leader spirituel qu'il a été, même si l'indépendance de l'Inde a supposé beaucoup de violence.
Mmh. Et oui, c'est peut-être une conclusion finalement de ce troisième chapitre et de notre série spéciale sur les façons d'être heureux aujourd'hui. Il n'y aura pas de jardin intérieur qui pourra survivre dans le grand incendie du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible de construire des abris ou des cabanes, comme le propose l'historienne Marielle Massé. Car c'est bien l'idée justement, non pas tourner le dos au monde, mais apprendre à l'habiter autrement.
Magnifique.
Merci tout le monde.
Merci Antoine.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.